Vous écoutez On lit pour vous.
Prêt pour le lait et le bœuf de laboratoire? Un dossier de Stéphanie Bérubé et William Thériault, paru le 13 décembre 2025 dans la presse. Le jour approche où vous pourrez boire un verre de lait de vache, produit sans vache, et déguster un rôti de bœuf cloné. Alors que la viande clonée est de retour dans l'actualité au Canada, une jeune pousse de Montréal développe un lait de culture qu'elle voudrait être la première à mettre en marché dans le monde. Il reste à voir s'il y a de l'appétit pour des aliments issus de la biotechnologie. Du lait de vache sans vache, élaboré ici. Il suffit de faire une biopsie à une vache, de nourrir les cellules en laboratoire et tada! On finira par avoir un verre de lait. Le processus pour créer un lait de culture n'est évidemment pas si simple, mais apparemment moins compliqué qu'on pourrait le croire. Du moins, lorsqu'il est expliqué par Jennifer Côté, qui a fondé Opalia en 2020 avec son partenaire Luca House. 5 ans plus tard, Opalia est en tête des PME qui travaillent sur un lait de culture à partir de cellules. C'est très risqué, dit Madame Côté. Il y a beaucoup de défis à relever. Notre équipe fait un travail incroyable sur une technologie qui n'a jamais existé. L'équipe de 7 employés travaille pour le moment dans un petit laboratoire qui se trouve au cœur de Montréal. Opalia a réussi à obtenir 3 millions de dollars en investissement et bourses de recherche. Elle travaille sur une deuxième phase de financement cruciale de 5 millions supplémentaires qui ferait sortir le lait du laboratoire pour montrer qu'il est prêt pour une commercialisation à grand volume. Les partenaires sont d'ici. Investissement Québec a allongé 750 000 $, mais aussi d'ailleurs. La multinationale laitière néerlandaise Hoog Wegt a été attirée par ce produit de rechange. Un procédé simple. Il y a plus d'une façon de faire du lait de vache sans vache. Opalia a choisi le chemin le plus long car elle veut recréer le lait de la cellule au vert. L'idée est de reproduire l'œuvre de la nature en laboratoire. L'équipe nourrit les cellules du pie avec ce qu'elle mange naturellement, vitamines, sucre, sel, acides aminés. Ces cellules vont produire des protéines de lait. Peu de recherches ont été faites sur l'activation de la lactation à partir de cellules. Sachant que le premier burger de viande clonée a été présenté au public en 2013, c'est étonnant, non? Il y a plusieurs enjeux scientifiques derrière ce procédé-là, tempère Steve Labrie, professeur à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval et directeur du Centre de recherche en sciences et technologies du lait. Trouver un milieu de culture qui va nourrir ces cellules, qui a la bonne composition et qui va permettre de produire du lait en grande quantité, c'est un enjeu, dit-il. Une question de coût. Le défi est de réussir à produire un coût comparable à celui du lait. Le plan d'Opalia est d'y arriver dans 4 à 5 ans, mais de lancer le produit dans 2 ans. Pour produire à l'extérieur du laboratoire, il faudra des équipements de pointe, notamment des bioréacteurs pour faire la multiplication des cellules. Maintenir ces bioréacteurs, c'est beaucoup d'énergie, précise le professeur Steve Labrie, qui soulève ainsi une grande inconnue dans l'équation, quelle sera l'empreinte énergétique de ce lait? Probablement que pour ce qui est des gaz à effet de serre, il y aura un gain important, estime-t-il. Mais en ce qui concerne les ressources énergétiques, Opalia estime une réduction de 65% de l'empreinte environnementale de son lait comparativement au lait de vache produit dans une étable. Un lait de transformation. La PME ne vise toutefois pas le lait de consommation, mais le lait de transformation où la demande est plus grande. La clientèle qui a délaissé le lait de vache pour ses céréales du matin a pu trouver refuge dans les boissons végétales, soya, amandes, avoine, etc. Pour le fromage, le beurre ou même le yogourt, la substitution n'est pas encore optimale. Au Québec, la fromagerie Bergeron a montré de l'intérêt pour le travail d'Opalia. On suit ça de façon intéressée, dit Jean-Christophe Magnan, vice-président des affaires et du marketing pour la fromagerie de Saint-Antoine de Tilly. Bergeron s'est intéressé au fromage pour diversifier sa gamme, mais sans résultat flamboyant. L'idée d'avoir un lait de vache qui a une plus petite empreinte environnementale vaut assurément qu'on s'y intéresse, exprime Jean-Christophe Magnan. Le professeur Steve Labrie rappelle aussi que le lait de vache, peu importe où il est produit, reste loin devant pour ce qui est de son apport en protéines. Pour quel public? L'autre argument de vente fort, selon Steve Labrie, c'est que l'on sort les vaches de l'équation. Certains consommateurs seront attirés vers le produit, sachant qu'il n'y a pas eu utilisation d'animaux, détaille-t-il. D'un autre côté, poursuit-il, une partie des consommateurs ne voudra absolument pas d'un lait qui vient d'un laboratoire. Chez Opalia, on ne craint pas trop d'opposition. On s'attendait à avoir plus de résistance, mais on voit plus de curiosité et d'intérêt, dit Jennifer Côté. Les gens sont au courant de l'impact de l'industrie laitière sur l'environnement et cherchent des solutions de rechange qui vont leur plaire en termes de goût et de fonctionnalité. Jennifer Côté et Lucas House voient loin. Certains pays ont soif d'options de rechange pour des raisons climatiques. Ils limitent le développement d'une industrie laitière. Le plan de développement des entrepreneurs comprend la conquête de ces marchés. Il ne faut d'ailleurs pas s'étonner de voir un État comme Singapour investir massivement dans la production alternative de protéines. Jeff Bezos, par l'entremise de sa fondation, a créé des centres pour les protéines durables et travaille notamment avec l'Université de Singapour. Simplement dans le lait, plusieurs autres jeunes pousses sont dans la course, un peu partout dans le monde. En tête de peloton, l'Israélienne Remilk, qui travaille avec un procédé différent et vient d'annoncer que son lait sans vache, le New Milk, sera en vente au début de l'année prochaine. L'entreprise a mis 5 ans à développer son lait et investit plus de 200 millions de dollars pour y arriver. Ces labeurs portent leurs fruits. Santé Canada a approuvé en janvier 2024 la protéine bêta-lactoglobuline produite en laboratoire par Remilk pour la transformation alimentaire. Aux producteurs de lait du Québec, on juge qu'il est trop tôt pour spéculer sur l'impact que pourra avoir l'entrée dans le marché d'un lait de laboratoire ou d'un composant laitier. Qui échappera donc à la gestion de l'offre? L'ABC des laits de rechange. On connaît déjà bien les boissons végétales laiteuses, souvent issues de graines ou de noix. On pense à la boisson d'amande, mais aussi de noix de macadam, de cajou, de noix de coco, d'arachide, ainsi qu'aux boissons de soya, d'avoine, de riz ou même de pois. Maintenant, il y a aussi en développement ces laits que l'on appelle de vache sans vache, de laboratoire ou de culture. La technique choisie par l'entreprise montréalaise Opalia consiste à produire du lait à partir de cellules mammaires qui vont reproduire tous les composants du lait de vache. Vous écoutez, prêt pour le lait et le bœuf de laboratoire, un dossier de Stéphanie Bérubé et William Thériault, paru le 13 décembre 2025 dans la presse. Selon Jennifer Côté, cofondatrice de la PME, peu d'entreprises dans le monde ont choisi cette option plus complexe. Elles se compteraient sur les doigts d'une main. Plus nombreuses sont celles qui ont opté pour la fermentation de précision. Il s'agit cette fois de produire des protéines laitières, en laboratoire, à partir de micro-organismes, levures ou bactéries, qui seront cultivées dans des cuves de fermentation avec un gène de lait, caséine, lactosérum, etc. Donc, sans cellules d'origine animale. C'est ce que fait l'israélienne Remilk. Et c'est aussi ce que fait l'américaine New Culture, qui a travaillé avec la vedette de la cuisine américaine Nancy Silverton et sa pizzeria Mozza. En 2023, il a donc été possible de goûter des pizzas qui contenaient une mozzarella faite à partir de son lait de vache sans vache. Il ne provient pas de cellules mammifères, précise Benjamin Friedman, vice-président commercial de New Culture, une entreprise fondée en 2018 à San Francisco. Nous modifions génétiquement des micro-organismes pour qu'ils produisent de la caséine, puis nous les nourrissons avec des sucres dans de grandes cuves de fermentation. Monsieur Friedman annonce une mise en marché imminente. Lucas House, cofondateur d'Opalia, émet une sérieuse réserve sur ce procédé qu'il ne voit pas comme un concurrent direct. Comme la technique ne donne qu'un composant du lait, le produit qui en résulte n'aura pas toutes les caractéristiques du lait, dont une essentielle, le goût. Dans le laboratoire d'Opalia, Lucas House prouve son point. « Sentez ceci, nous dit-il, en présentant une toute petite éprouvette par où était passé son produit en développement. Il y avait indéniablement une odeur fromagée. Que se passe-t-il avec la viande clonée? En novembre 2025, Santé Canada a annoncé vouloir supprimer la réglementation en vigueur sur la viande clonée pour les porcs et les bovins. Mais l'Agence fédérale s'est rétractée après une levée de boucliers des consommateurs et des producteurs. Explication. Quel était le projet? Depuis 2003, la viande d'animaux clonés est classée comme un aliment nouveau au Canada. Ces produits doivent donc passer une évaluation d'innocuité obligatoire auprès de Santé Canada avant leur mise en marché. Le 3 novembre 2025, Santé Canada a annoncé vouloir retirer la mention d'aliments nouveaux de la viande clonée, ce qui signifie aussi le retrait de l'exigence d'un examen au préalable. Pour le dire simplement, une fois cette décision mise en place, il n'y aurait aucune différence légale entre de la viande de bœuf ou de porc qui est élevée naturellement ou clonée en territoire canadien. L'Agence fédérale se fiait à divers avis scientifiques, soutenant que la viande issue de bovins et de porcs clonés est aussi salubre que celle provenant d'animaux élevés traditionnellement. Il n'y a pas de données suffisantes pour inclure d'autres animaux. Pourquoi a-t-il été suspendu? Dans les deux semaines suivant la publication de l'avis, de nombreuses critiques de consommateurs et de l'industrie ont été faites auprès d'Ottawa. Les consommateurs ont surtout exprimé le souhait d'une plus grande transparence sur les méthodes de production des aliments. L'industrie s'est surtout intéressée aux répercussions potentielles sur l'accès au marché d'exportation, explique Santé Canada dans sa réponse à la presse. Le projet a donc été suspendu, mais pas annulé, le 19 novembre, le gouvernement prévoyant des discussions supplémentaires avec les ministères et agences concernées. Aucun délai n'a été fixé pour en arriver à une conclusion, précise Santé Canada. La pratique est-elle fréquente au Canada? Pas du tout. À l'heure actuelle, aucun produit de viande provenant d'animaux clonés n'est autorisé à la vente au Canada, nous répond Santé Canada. toute demande, devra répondre aux normes de sécurité rigoureuses et fondées sur la science avant d'être prise en considération. Au Québec, les sociétés Métro et Loblaw, qui chapeautent respectivement les enseignes québécoises Métro et Super C, puis Maxi et Provigo, confirment à la presse ne pas vendre de viande clonée dans leurs épiceries. Serait-il profitable de générer de la viande clonée? Non plus. Le clonage d'animaux par transfert de noyaux de cellules somatiques, TNCS, la technique dont il est question dans ce contexte, coûte aux entreprises environ 15 000 $ pour un bovin et 4 000 $ pour un porc. Ça peut même aller jusqu'à 40 000 $ pour certains spécimens, un clone bovin, affirme Claude Robert, professeur au département des sciences animales de l'Université Laval. Je ne vois pas l'intérêt économique de faire ça. Ils n'ont pas de meilleure qualité que les spécimens d'origine. Alors, dans quel contexte est-ce utile? C'est surtout lorsqu'une ferme possède un taureau vedette dont la génétique est excellente. Le producteur peut être prêt à payer le gros prix pour cloner ce géniteur, puis s'assurer d'un troupeau fort et en santé. Cet animal n'est toutefois pas abattu pour sa viande. Comment fonctionne le procédé du clonage? Cessez tout de suite de penser à Star Wars. Le TNCS n'a rien d'un film de science-fiction où une créature serait intégralement reproduite en un claquement de doigts. Le clonage, tel que l'explique Claude Robert, est en fait une technique de reproduction assistée. On va d'abord enlever le matériel génétique de l'ovule de la vache, faire croire à cet ovule qu'il a été fécondé en insérant l'ADN du spécimen qu'on veut cloner. Cela va générer un jumeau identique sur le plan nucléaire, après une période de gestation normale de la vache. Y a-t-il d'autres désavantages au projet de Santé Canada? Oui. Même s'il occupe une place marginale dans les exportations canadiennes de viande rouge, le marché européen n'accepte pas les produits issus d'animaux clonés ou de leur descendance. Si la viande provient d'un pays sans réglementation sur la viande clonée, il n'y a aucune façon de déterminer si c'est un jumeau ou pas, car les clones sont indissociables sur le plan de l'ADN. Tu peux donc te mettre les pieds dans les plats et te fermer des marchés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de débarrer cette réglementation? Il n'y a pas de lien avec la salubrité ou la dangerosité du produit. C'est juste une question d'accès au marché, lance Claude Robert. La viande clonée en cinq dates. 2013. Le premier burger de laboratoire est présenté à Londres. Son coût? 350 000 $ pour 142 grammes de viande créée à partir de cellules de bovins. 2020. Singapour devient le premier État à approuver la commercialisation de la viande clonée. Du poulet de culture fait son apparition sur les menus de certains restaurants. Il y a depuis aussi de la caille et du foie gras de culture. 2023. Le département de l'agriculture américain approuve la viande de culture de deux fabricants, Upside Foods et Good Meat, aussi du poulet. Les États-Unis deviennent ainsi le deuxième pays à en permettre la production et la commercialisation. La même année, l'Italie devient le premier pays européen à bannir la viande de culture. 2024. Un mouvement d'interdiction de la viande de culture se lève aux États-Unis. La Floride et l'Alabama interdisent la viande clonée. 2025. Trois États américains interdisent à leur tour la vente de viande clonée, le Mississippi, le Nebraska et le Montana, alors que le Texas impose un moratoire de 2 ans sur la vente. Le Nebraska impose aussi un moratoire de 2 ans, mais sur la vente et la production de viande issue de la biotechnologie. C'était, prêt pour le lait et le bœuf de laboratoire, un dossier de Stéphanie Bérubé et William Thériault, paru le 13 décembre 2025 dans la presse.
Comment devenir plus heureux? Un texte de Magdalene Boutros de la presse canadienne paru le 20 octobre 2025 dans Le Devoir. La quête du bien-être, ce n'est pas l'apanage d'une industrie florissante aux contours parfois douteux. C'est aussi un champ d'études scientifiques s'attardant aux facteurs contribuant au bonheur. Chaque année, un groupe d'experts publie le rapport mondial sur le bonheur, rempli d'un florilège d'outils permettant d'améliorer le niveau de satisfaction de nos vies. Une thématique différente est scrutée chaque année. En 2025, le rapport, publié par le Well-Being Research Center de l'Université d'Oxford, en partenariat avec Gallup, le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies et un comité éditorial, s'est attardé aux effets de la bienveillance et du partage. Le Devoir vous présente quatre pistes tirées de ce rapport et basées sur des sondages, des indicateurs et des analyses scientifiques permettant d'améliorer notre niveau de bonheur. Faire plus confiance, les gens sont plus gentils qu'on le croit. Les gens sous-estiment la bienveillance et la gentillesse des autres. Dans plusieurs pays, des tests ont été effectués pour évaluer le taux de restitution de portefeuilles perdus. Parallèlement, des personnes ont été sondées pour deviner si les gens allaient rendre les portefeuilles. Partout dans le monde, les gens se sont montrés trop pessimistes, relève John Halliwell, membre fondateur du rapport mondial sur le bien-être et professeur émérite à la Vancouver School of Economics de l'Université de Colombie-Britannique. L'écart entre le taux de restitution effectif et celui prédit s'explique en grande partie par le biais de négativité. Les gens se souviennent davantage des choses négatives et y accordent plus d'attention. Les médias aggravent ce phénomène en reflétant ce biais de négativité. If it bleeds, it leads. S'il y a du sang, ça fait la une, et en l'amplifiant. Ainsi, même si nos expériences personnelles sont presque toujours positives, notre perception du monde est plus noire que la réalité. Or, mieux évaluer la gentillesse des autres est un amplificateur de bien-être. Le fait de croire que les autres rendraient un portefeuille trouvé prédit une hausse du niveau de satisfaction dans la vie plus importante qu'un doublement du revenu, note le rapport. Prendre soin, un double effet positif. Depuis la pandémie, une hausse des actes de bienveillance a été observée à travers le monde. Et elle se poursuit. Les gestes altruistes étaient 10% plus élevés en 2024 que pendant la période 2017-2019. Une bonne nouvelle puisque les manifestations de gentillesse augmentent le bien-être de ceux qui reçoivent et de ceux qui donnent. Les gens sont plus heureux si tout le monde veille au bien-être de chacun, ce qui crée des boucles de rétroaction positives, indique John Halliwell. La même logique s'applique aux relations entre les États. Le rapport s'est attardé aux effets de l'aide publique au développement non liée. Nous avons constaté que les États les plus heureux sont ceux qui agissent au bénéfice d'autres pays, sans chercher à accroître leur pouvoir ou leur influence sur eux, poursuit le professeur. Faire des gestes altruistes, que ce soit à un niveau individuel ou collectif, produit donc des externalités positives pour nous, comme pour les autres. Partager des repas, la recette du bonheur. Partager des repas est un indicateur exceptionnellement fort du bien-être subjectif, comparable à l'impact du revenu ou du chômage, indique le rapport. Peu importe les pays, les gens partageant des repas ont rapporté des niveaux de satisfaction de vie et d'émotions positives nettement plus élevés et des niveaux d'émotions négatives plus faibles. Derrière ces repas partagés se cache l'apport crucial des connexions sociales, au niveau tant individuel que collectif. Les pays où les gens partagent davantage leurs repas affichent des niveaux plus élevés de soutien social et de réciprocité positive, ainsi que des niveaux plus faibles de solitude, note le rapport. Pour John Halliwell, partager un repas revêt une forte importance symbolique. C'est bien plus que le simple fait de se nourrir. C'est faire des choses ensemble. D'autres recherches montrent que certaines activités partagées ont un effet encore plus fort, comme chanter ensemble ou faire de la musique en groupe en raison de la synchronicité qu'elles procurent. Manger ensemble, c'est donc nourrir des liens sociaux essentiels à notre santé physique et mentale. Vivre à 4 ou à 5, le chiffre magique. Le bonheur se trouve-t-il dans la vie familiale? Des indicateurs démontrent que le niveau de satisfaction de vie augmente avec la taille du foyer, jusqu'à ce qu'il atteigne 4 ou 5 membres, en raison des connexions affectives abondantes et régulières. Les couples vivant avec au moins un enfant ou avec des enfants et des membres de leur famille élargie déclarent en moyenne une satisfaction de vie particulièrement élevée. À l'inverse, les personnes vivant seules éprouvent souvent des niveaux de bonheur plus faibles, notamment en raison d'une moindre satisfaction relationnelle, mentionne le rapport. Les foyers de grande taille tendent aussi à générer un bien-être plus faible, probablement en raison d'une situation économique plus difficile ou d'un manque d'intimité. C'est un peu comme dans d'autres formes de vie collective. Quand un groupe devient trop grand, il passe souvent plus de temps à gérer son fonctionnement qu'à vivre de vraies interactions, note aussi John Halliwell. Vivre à plusieurs permet donc de créer une communauté de bienveillance et de partage, génératrice de bien-être. C'était « Comment devenir plus heureux ?» un texte de Magdalene Boutros de la presse canadienne, paru le 20 octobre 2025 dans Le Devoir.